Le journal de George Fox 1656-1657 en route pour l'Écosse, page 4. Ensuite, nous retournâmes à Reds, Badco et Garshore, où la dite dame Margaret Embleton fut convaincue, puis elle alla avertir Oliver Cromwell et Charles Fleetwood que le jour du Seigneur venait sur eux. Le premier jour de la semaine, nous eûmes une grande réunion, à laquelle vinrent plusieurs professeurs. Or, les prêtres avaient effrayé le peuple avec la doctrine de l'élection et de la réprobation, leur disant que Dieu avait ordonné la plus grande partie des hommes et des femmes à l'enfer. Et s'ils étaient ordonnés à l'enfer, quelles que fussent leurs prières, prédications, cantiques et bonnes œuvres, tout cela ne servait à rien. Que Dieu avait un certain nombre, élus pour le ciel, et quoi qu'ils fissent, ils allaient toujours au ciel, c'est-à-dire David, adultère, et Paul, persécuteur, pourtant tous deux étaient élus pour le ciel. Ainsi la faute n'était nullement dans la personne, plus ou moins, mais en Dieu, qui l'avait ainsi ordonné. Je fus conduit à ouvrir au peuple la fausseté et la folie des doctrines de leurs prêtres, et à leur montrer que les prêtres avaient abusé de ces écritures qu'ils leur avaient apportées et citées, comme dans Jude et ailleurs. Car là où ils disaient « Il n'y a aucune faute dans la personne », je leur montrais que la faute était en Caïn, Corée et Balaam, que Jude dit avoir été jadis destiné à la condamnation. Car Dieu n'a-t-il pas averti Caïn et Balaam, et posé à Caïn la question « Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé ?» Et le Seigneur n'a-t-il pas fait sortir Corée d'Égypte, lui et sa troupe ? Et pourtant ne s'est-il pas opposé à Dieu et à sa loi ? Et à son prophète Moïse, ainsi il y avait faute en Caïn, Corée et Balaam, comme il y a faute en tous ceux qui se détournent de la voie de Dieu et suivent leur propre voie. Car si ceux qu'on appelle chrétiens résistent à l'Évangile comme Corée résista à la loi, s'égarent loin de l'Esprit de Dieu comme Balaam, et font le mal comme Caïn, n'y a-t-il pas faute survenue ? La faute est en eux-mêmes, et elle est la cause de leur réprobation, et ce n'est pas la faute de Dieu. Christ ne dit-il pas « Allez, prêchez l'Évangile du salut à toutes les nations » Il ne les aurait pas envoyés dans toutes les nations prêcher la doctrine du salut, si la plus grande partie des hommes avait été ordonnée à l'enfer. Christ n'était-il pas une propitiation pour les péchés du monde entier, pour ceux qui sont devenus réprouvés le péché vit encore en eux, aussi bien que pour les saints, il est mort pour tous les hommes, les impies aussi bien que les pieux, comme l'apôtre l'énonce dans l'Écriture. 2 Cor 5:15 et Rome 5:6. Et il éclaire tout homme venant dans le monde, afin que tous puissent croire par lui. Et Christ leur ordonne de croire en la lumière, mais tous ceux qui haïssent la lumière, que Christ dit à tous de croire, sont réprouvés. Encore, la manifestation de l'Esprit de Dieu est donnée à chaque homme pour l'utilité commune, mais ceux qui contristent, éteignent et attristent l'Esprit sont dans la réprobation, et la faute est en eux, comme elle est aussi en ceux qui haïssent la lumière. L'apôtre a dit, « La grâce de Dieu, qui apporte le salut, est apparue à tous les hommes, nous enseignant que, renonçant à l'impiété et aux convoitises mondaines, nous devons vivre sobrement, justement et pieusement dans le siècle présent. » Tite 2:11-12. Or tous ceux qui vivent dans l'impiété et dans les convoitises du monde, qui changent cette grâce de Dieu en relâchement de frein, et marchent contre elle avec mépris, et ainsi renient Dieu et le Seigneur Jésus-Christ qui les a rachetés, la faute est en tout cela, qui changent la grâce de Dieu en relâchement de frein et marchent avec mépris contre ceux qui voudraient leur apporter le salut et les sauver de la réprobation. Mais il semble que les prêtres ne voient aucune faute en ceux qui renient Dieu et le Seigneur Jésus-Christ qui les a rachetés, ni aucune faute en ceux qui renient sa lumière, la lumière en laquelle ils devraient croire, et sa grâce, qui devrait leur enseigner à vivre pieusement et leur apporter leur salut. Or tous ceux qui croient en la lumière de Christ, comme il l'ordonne, sont dans l'élection et s'assoient sous l'enseignement de la grâce de Dieu qui leur apporte le salut. Mais ceux qui se détournent de cette grâce en rejetant l'autorité sont rejetés de Dieu la réprobation, et ceux qui haïssent la lumière sont dans la condamnation. C'est pourquoi j'exhortais tous à croire en la lumière, comme Christ l'ordonne, et à reconnaître la grâce de Dieu comme leur libre enseignante, et elle leur apporterait assurément le salut, car elle suffit. Bien d'autres écritures furent ouvertes au sujet de la réprobation, et les yeux du peuple furent ouverts, et une source de vie se leva parmi eux. Note de l'éditeur du site. Les théories de la prédestination viennent de l'Écriture, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés dès le commencement à être conformés à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né entre beaucoup de frères. Rome 8, 29. Comme cela est expliqué plus avant dans les écrits Quakers, Dieu vit hors du temps, il savait donc, au commencement de la création, qui choisirait de se détourner du mal pour chercher sa face. Il nous attire tous à lui, tout homme a son jour de visitation, mais peu manifeste un désir sincère de chercher sa présence avec persévérance jusqu'à ce qu'il le voie et ait communion avec lui. Peu sont alors choisis pour recevoir sa grâce qui transforme et purifie. Fox a écrit un texte très détaillé sur ce sujet, cliquez ici pour y accéder. Ces choses parvinrent bientôt aux oreilles des prêtres, car les gens qui étaient assis sous leur sombre enseignement commencèrent à voir la lumière et à entrer dans l'Alliance de la Lumière. Ainsi la nouvelle se répandit en Écosse parmi les prêtres que j'étais venu dans leur pays, et un grand cri s'éleva parmi eux, disant que tout serait gâché, car ils disaient, « Il a déjà gâté tous les honnêtes hommes et femmes d'Angleterre, ainsi, selon leur propre récit, les pires leur restaient. » Sur quoi ils réunirent de grandes assemblées de prêtres, et rédigèrent un certain nombre de malédictions à lire dans leurs divers temples à clocher, et auxquels tout le peuple devait dire Amen. J'en rapporterai ici quelques-unes, le reste peut se lire dans le livre déjà mentionné, de Scotch Priest Principle. La première était, « Maudit soit celui qui a dit, tout homme a en lui une lumière suffisante pour le conduire au salut, et que tout le peuple dise Amen. » La deuxième, « Maudit soit celui qui a dit, la foi est sans péché, et que tout le peuple dise Amen. » La troisième, « Maudit soit celui qui nie le jour du sabbat, et que tout le peuple dise Amen. » Dans cette dernière, ils font que le peuple se maudit lui-même, car le jour du sabbat biblique, qui est le septième jour de la semaine, que les Juifs observaient par le commandement de Dieu, les marchés et foires de ces gens étaient ouverts, ainsi la malédiction retombait sur leur propre tête. Quant à la première, concernant la lumière, Christ a dit, « Croyez en la lumière, afin que vous deveniez enfants de lumière, et celui qui croit sera sauvé, celui qui croit aura la vie éternelle, celui qui croit passe de la mort à la vie, et est greffé en Christ. » Et vous faites bien, dit l'apôtre, de prêter attention à la lumière qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ainsi la lumière suffit pour conduire jusqu'à l'étoile du matin. Quant à la foi, c'est le don de Dieu, et tout don de Dieu est pur. La foi dont Christ est l'auteur est précieuse, divine et sans péché. C'est cette foi qui donne la victoire sur le péché et l'accès à Dieu, dans cette foi ils plaisent à Dieu. Mais ceux qui sont eux-mêmes réprouvés le péché vit encore en eux à l'égard de cette foi, et qui sont dans leur foi morte, sont ceux qui imputent le péché à cette foi sous peine de malédiction. Cette foi donne victoire sur leur malédiction et la fait retourner dans leurs propres entrailles. Il y avait un groupe d'Écossais près de Badco qui provoquèrent une dispute avec quelques-uns de nos amis écossais, car avec moi ils ne voulaient pas disputer. Ainsi quelques amis écossais les rencontrèrent sur la place du marché. La dispute devait porter sur le jour du sabbat et sur quelques autres de leurs principes mentionnés plus haut et moi, ayant obtenu leurs principes et assertions, je montrai aux amis comment ils pouvaient aisément être renversés, et un ami écossais, un forgeron, les renversa clairement. Il y avait deux églises indépendantes en Écosse, dans l'une desquelles beaucoup furent convaincus, mais le pasteur de l'autre était dans une grande rage contre la vérité et les amis. Ils avaient leurs anciens, qui parfois exerçaient leurs dons parmi les membres de l'Église, et se montraient parfois assez sensibles, mais leur pasteur parlant tant contre la lumière et contre nous, amis de Christ, il obscurcit ses auditeurs, de sorte qu'ils devinrent aveugles et secs, et perdirent leur sensibilité. Il continua de prêcher contre les amis et contre la lumière de Christ Jésus, la qualifiant de naturelle. Finalement, un jour, dans sa prédication, il maudit la lumière et tomba comme mort dans sa chair. Les gens le portèrent dehors, le couchèrent sur une pierre tombale et lui versèrent des eaux de vie fortes, ce qui le ramena à la vie. Puis ils le portèrent chez lui, mais il était sans esprit. Au bout d'un temps, il ôta ses vêtements, mit un plaid écossais et s'en alla à la campagne parmi les laitières. Après y être resté environ 2 semaines, il revint chez lui et remonta en chair. Alors le peuple attendait de lui quelque grande manifestation ou révélation, mais au lieu de cela, il se mit à leur raconter quel accueil il avait reçu, comment une femme lui avait donné du lait écrémé, une autre du babeurre et une autre du bon lait. Ainsi le peuple fut obligé de le retirer de la chair de nouveau et de le ramener chez lui. Celui qui me fit ce récit était Andrew Robinson, l'un de ses principaux auditeurs, qui vint ensuite à être convaincu et reçut la vérité. Il dit n'avoir jamais entendu dire qu'il eût recouvré ses sens par la suite. Par cela, les gens peuvent voir ce qui survint à celui qui maudit la lumière, laquelle lumière est la vie en Christ, la parole, et cela peut être un avertissement pour tous les autres qui parlent mal de la lumière de Christ. Or les prêtres étaient dans une telle rage qu'ils se hâtèrent vers le conseil d'Olivier Cromwell à Édimbourg avec des pétitions contre moi. Le message était « Tout est perdu », car plusieurs amis étaient venus d'Angleterre et s'étaient répandus en Écosse, faisant retentir le jour du Seigneur, prêchant l'évangile éternel du salut et tournant les gens vers Christ Jésus, qui est mort pour eux, afin qu'ils puissent recevoir son enseignement gratuit. Après avoir rassemblé les principes des prêtres écossais et les souffrances des amis, et avoir vu les amis dans cette partie d'Écosse établie par la puissance du Seigneur sur Christ, leur fondement, je partis pour Édimbourg, et en chemin je vins à Linlithgow, où, logeant dans une auberge, la femme de l'aubergiste, qui était aveugle, reçut la parole de vie et se mit sous l'enseignement de Christ Jésus, son Sauveur. Cette nuit-là, un grand nombre de soldats et quelques officiers vinrent, et nous eûmes de longues discussions avec les officiers, certains étaient grossiers. L'un d'eux dit qu'il obéirait au commandement du Turc ou de Pilate, s'il lui commandait de garder Christ pour le crucifier. Il était si loin de toute tendresse de cœur ou de tout sentiment de l'Esprit de Christ, qu'il préférerait crucifier le juste plutôt que de souffrir pour le juste ou avec lui, alors qu'en vérité beaucoup d'officiers et de magistrats avaient perdu leur charge plutôt que de se retourner contre le Seigneur et son juste. Après être resté quelque temps à Édimbourg, j'allai à Lys, où beaucoup d'officiers de l'armée se joignirent à une réunion avec leurs femmes, et beaucoup furent convaincus. La femme d'Edward Billing en faisait partie. Elle apporta dans sa main une grande quantité de corail et la jeta sur la table devant moi pour voir si je parlerais contre ou non. Je n'y prêtai aucune attention, mais lui déclarai la vérité et elle fut touchée. Beaucoup de baptistes furent très grossiers, mais la puissance du Seigneur vint sur eux si bien qu'ils s'en allèrent confondus. Puis il entra une autre sorte de personne, l'une d'elles dit « Je discuterai avec toi, et pour les besoins de l'argument je nierai qu'il y ait un Dieu ». Je lui dis « Tu peux être de ces insensés qui disent en leur cœur « Il n'y a point de Dieu, mais tu le connaîtras au jour de ton jugement ». Il s'en alla donc, et nous eûmes ensuite un moment très bon et précieux avec plusieurs personnes de considération, et la puissance du Seigneur vint sur tous. William Osborne était avec moi. La femme du colonel Lidco, la femme de William Welsh, et plusieurs officiers eux-mêmes furent convaincus. Edward Billing et sa femme étaient alors séparés et vivaient à part, et elle fut atteinte par la vérité et devint affectueuse envers les amis. Nous envoyâmes chercher son mari, il vint, et la puissance du Seigneur atteignit l'un et l'autre, ils s'unirent en cela, et convinrent de vivre ensemble dans l'amour et l'unité comme mari et femme. Après cela nous retournâmes à Édimbourg, où plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées, avec beaucoup de prêtres parmi elles, discutant la mise au bûcher d'une sorcière, et je fus poussé à déclarer le jour du Seigneur au milieu d'eux. Quand j'eus fini, je partis de là pour notre réunion, où vinrent beaucoup de gens grossiers et des baptistes. Les baptistes commencèrent à se vanter avec leur logique et leur syllogisme, mais je fus poussé dans la puissance du Seigneur à battre leurs esprits légers et pleins de balles, et je montrai au peuple qu'après un tel raisonnement fallacieux, il pourrait faire paraître blanc ce qui est noir, et noir ce qui est blanc, ou bien parce qu'un poulet a deux pattes, et parce que chaque personne a deux pattes, donc ils étaient tous des poulets. Ainsi ils pouvaient tourner n'importe quoi en légèreté et vanité, mais ce n'était pas la manière de Christ ni de ses apôtres d'enseigner, de parler ou de raisonner de la sorte. Alors les baptistes s'en allèrent, et après leur départ, nous eûmes une réunion bénie dans la puissance du Seigneur, qui était au-dessus de tout. J'ai mentionné, plus tôt que beaucoup des prêtres écossais, ayant été fortement troublés par la propagation de la vérité et la perte de leurs membres qui en résultaient, étaient allés à Édimbourg pour présenter une pétition au Conseil contre moi. Quand je revins de la réunion à l'auberge où je logeais, un officier appartenant au Conseil m'apporta l'ordre suivant, jeudi 8 octobre 1657, au Conseil de son Alter en Écosse, ordonné que George Fox comparaisse devant le Conseil le mardi 18 octobre prochain au matin. E. Downing, greffier du Conseil, lorsqu'il m'eut remis l'ordre, il me demanda si je comparaîtrais ou non. Je ne lui dis pas si je le ferais ou non, mais je lui demandai s'il n'avait pas falsifié l'ordre. Il dit « Non, c'était un véritable ordre du Conseil, et il avait été envoyé comme leur messager avec celui-ci. Quand le moment arriva, je comparus et l'on me conduisit dans une grande salle où beaucoup de gens vinrent me regarder. Au bout d'un moment, le portier me fit entrer dans la salle du Conseil, et comme j'entrais, il m'ôta mon chapeau. Je lui demandai pourquoi il faisait cela, et qui était là-dedans pour que je ne puisse pas entrer avec mon chapeau. Je lui dis que j'avais déjà été devant le protecteur avec mon chapeau. Mais il accrocha mon chapeau et m'introduisit devant eux. Lorsque je fus resté debout un moment et qu'ils ne me dirent rien, je fus poussé par le Seigneur à dire « Que la paix soit parmi vous. Attendez dans la crainte de Dieu, afin de recevoir sa sagesse d'en haut, par laquelle toutes choses furent faites et créées, afin que par elle vous soyez tous réglés, et que vous régliez toutes choses sous vos mains à la gloire de Dieu. » Ils me demandèrent quelle était l'occasion de ma venue dans cette nation. Je leur dis que je venais visiter la semence de Dieu, qui était restée longtemps en servitude sous la corruption, afin que tous dans la nation, qui professent les Écritures, les paroles de Christ, des prophètes et des apôtres, puissent venir à la lumière, à l'esprit et à la puissance dans lesquelles étaient ceux qui les ont d'abord prononcées, afin que dans et par l'esprit, ils comprennent les Écritures, connaissent Christ et Dieu correctement et communion avec eux et les uns avec les autres. Ils me demandèrent si j'avais là quelque affaire extérieure. Je dis non. Alors ils me demandèrent combien de temps j'avais l'intention de rester dans ce pays. Je leur dis que je pouvais peu dire là-dessus, que mon temps ne devait pas être long, et pourtant, dans ma liberté dans le Seigneur, je me tenais dans la volonté de celui qui m'avait envoyé. Alors ils me dirent de partir, et le portier me prit par la main et me fit sortir. Peu après, ils me firent rappeler et me dire que je devais quitter la nation d'Écosse avant le septième jour à compter de ce jour. Je leur demandai pourquoi, qu'avais-je fait, quelle était ma transgression, pour qu'ils prononcent sur moi une telle sentence de quitter la nation. Ils me dirent qu'ils ne disputeraient pas avec moi. Je désirais qu'ils entendent ce que j'avais à leur dire. Ils dirent qu'ils ne m'entendraient pas. Je leur dis, Pharaon a entendu Moïse et Aaron, et pourtant c'était un païen, et Hérode a entendu Jean-Baptiste, et vous ne devriez pas être pire que cela. Mais ils crièrent, sortez, sortez. Ainsi le portier me reprit par la main et me conduisit dehors. Je retournai à mon auberge et restai à Édimbourg, visitant les amis là-bas et dans les environs, et les fortifiant dans le Seigneur. Au bout de quelque temps, j'écrivis une lettre au conseil pour leur exposer leur conduite non chrétienne, en me bannissant, moi, homme innocent qui cherchais leur salut et leur bien éternel, au conseil d'Édimbourg. Vous qui siégez en conseil, et amenez devant votre siège de jugement l'innocent, le juste, sans montrer quel mal j'ai fait ni me convaincre d'aucune infraction à la loi. Et ensuite vous me bannissez de votre nation, sans me dire pourquoi, alors même que je vous ai dit, quand vous m'avez demandé combien de temps je resterai dans la nation, que mon temps ne serait pas long, je l'ai dit innocemment, et pourtant vous me bannissez. Ne réalisez-vous pas que tous ceux qui craignent Dieu verront cela comme une méchanceté de votre part? Considérez, n'ont-ils pas siégé en conseil au sujet d'Étienne, lorsqu'ils le lapidèrent à mort? N'ont-ils pas siégé en conseil au sujet de Pierre et de Jean, quand ils les forcèrent à sortir du temple, les firent sortir de leur conseil pour un moment, puis tinrent conseil ensemble, puis les firent entrer de nouveau, les menacèrent et leur interdirent de parler encore en ce nom, n'était-ce pas arrêter la vérité dans sa propagation en ce temps-là? Les prêtres n'eurent-ils pas la main à ces choses, avec les magistrats, et dans l'interrogatoire d'Étienne lorsqu'il fut lapidé à mort, le conseil ne s'assembla-t-il pas contre Jésus-Christ pour le mettre à mort, et les principaux prêtres n'y eurent-ils pas part? Lorsqu'ils persécutent le juste et crucifient le juste, ne néglige-t-il pas alors le jugement, la miséricorde et la justice et les choses les plus importantes de la loi, qui est juste? L'apôtre Paul n'a-t-il pas été ballotté et emprisonné par les prêtres et les gouvernants? Jean-Baptiste n'a-t-il pas été jeté en prison? Ne faites-vous pas le même ouvrage, montrant quel esprit vous gouverne? Maintenant ne montrez-vous pas la fin de votre profession, la fin de vos prières, la fin de votre religion et la fin de votre enseignement? Vous qui avez maintenant banni la vérité et celui qui est venu vous la déclarer, cela ne montre-t-il pas que tout ce que vous avez, ce sont des paroles, hors de la vie des prophètes, de Christ et de ses apôtres, eux n'ont jamais banni personne. Comment recevez-vous les étrangers, ce qui est un commandement de Dieu parmi les prophètes, Christ et les apôtres? Certains, en recevant des étrangers, ont sans le savoir reçu des anges, mais vous bannissez quelqu'un qui vient visiter la semence de Dieu et qui n'est à charge à aucun de vous. Tous ceux qui craignent Dieu, ne regarderont-ils pas cela comme de la malveillance et de la méchanceté contre la vérité? Comment pouvez-vous dire que vous obéissez au commandement d'aimer vos ennemis et bannir quelqu'un qui vous est amical? Comment pouvez-vous obéir au commandement de faire du bien à ceux qui vous haïssent quand vous faites du mal à ceux qui vous aiment? Comment pouvez-vous vous conformer au commandement d'amonceler des charbons ardents sur la tête de ceux qui vous haïssent et de vaincre le mal par le bien? Quand vous nous avez bannis de cette manière, ne montrez-vous pas à tous ceux qui sont dans la vérité que vous n'avez pas l'esprit chrétien? Comment m'avez-vous traité avec justice quand, sans aucune conviction de mal, vous me bannissez pourtant? Cela montre que la vérité est bannie de vos cœurs, et que vous vous êtes ligués contre la vérité avec des malfaiteurs, avec les prêtres méchants et envieux, les lapideurs, les frappeurs et les railleurs dans les rues. Avec cela, vous qui bannissez, vous vous êtes joints, alors que vous auriez dû être une terreur pour ces malfaiteurs et une louange pour ceux qui font le bien, et un soutien pour ceux qui sont dans la vérité. Alors vous auriez pu être une bénédiction pour la nation, et n'auriez pas banni celui que le Seigneur a poussé à visiter la semence de Dieu. Les magistrats, dans les siècles passés, n'ont-ils pas été excités à persécuter ou à bannir par les prêtres corrompus? Et les prêtres corrompus n'ont-ils pas excité la foule grossière contre les justes en d'autres temps? C'est pourquoi vos rues sont comme Sodome et Gomorre. Les juifs et les prêtres n'ont-ils pas rendu l'esprit des gentils jaloux contre les apôtres? Et qui étaient ceux qui ne voulaient pas que le prophète Amos prophétie à la chapelle du roi, mais lui dire de s'en aller? Les prêtres ne se sont-ils pas joints au prince pour mettre Jérémie en prison, dans le cachot et au cep? Voyez donc tous ceux qui ont participé à cette œuvre de bannissement, d'emprisonnement, de persécution, s'ils n'étaient pas tous hors de la vie de Christ, des prophètes et des apôtres, c'est aux témoins de Dieu, en vous tous que je parle. Considérez si ce n'étaient pas toujours les magistrats aveugles qui tournaient leur épée toujours en arrière, qui ne savaient pas distinguer leurs amis de leurs ennemis, et frappaient ainsi leurs amis. De tels magistrats étaient trompés par la flatterie. George Fox, lorsque cela leur fut remis, élus parmi eux, quelques-uns, me dit-on, furent troublés de ce qu'ils avaient fait, prenant conscience que ce qu'ils avaient fait ne serait pas à leur avantage. Mais peu de temps après m'avoir banni, ils furent eux-mêmes bannis, ou bien heureux de pouvoir s'en aller, eux qui ne voulaient pas faire le bien au jour où ils avaient le pouvoir, ni permettre à d'autres de le faire. Je vis que le général Monk était un homme qui s'était incliné devant Olive le protecteur, et qu'il avait un couvert, il jouait seulement un rôle, et que lorsque le couvert serait ôté, lorsqu'il cesserait de jouer, il redeviendrait l'homme qu'il avait été avant Cromwell. Ceux qui m'avaient banni seraient eux-mêmes bannis quelques années plus tard, car lorsqu'ils avaient le pouvoir, ils ne faisaient pas le bien, ni ne laissaient d'autres faire le bien non plus. Monk avait servi Charlie. Lorsque Cromwell remplaça le roi par la Révolution, Monk devint l'assistant de Cromwell et commandant en chef en Écosse, où il avait de nombreux Quakers sous son commandement en tant que soldat. Fox écrivit une longue lettre à lui et à l'armée en Écosse. Au moment de la restauration de la monarchie, Charlie y entra pour succéder à Cromwell, et Monk fit exactement comme Fox l'avait prévu, il rejoignit à nouveau la cause royaliste des Stuarts, montrant quel acteur habile il était. Après avoir passé quelque temps parmi les amis à Édimbourg et dans les environs, j'en partis pour Reds de nouveau, où les amis avaient beaucoup souffert, car les prêtres presbytériens les avaient excommuniés et avaient donné ordre que personne ne leur achète ni ne leur vende, ni ne mange ni ne boive avec eux. Ainsi, ils ne pouvaient ni vendre leurs marchandises, ni acheter ce dont ils avaient besoin, ce qui rendait la vie très dure pour certains, car s'ils avaient acheté du pain ou d'autres victuailles à l'un de leurs voisins, les prêtres les menaçaient si fort de malédictions qu'ils couraient le reprendre. Mais le colonel Ashfield, étant juge de paix dans ce pays, mit un terme aux agissements des prêtres. Ce colonel Ashfield fut ensuite lui-même convaincu, une réunion fut établie chez lui, il déclara la vérité, et il vécut et mourut en elle. Après avoir visité les amis à Reds et aux environs, et les avoir encouragés dans le Seigneur, j'allai à Glasgow, où une réunion avait été annoncée, mais aucun habitant de la ville n'y vint. Comme j'entrais dans la cité, la garde aux portes me conduisit devant le gouverneur, qui était un homme modéré. Je discutai beaucoup avec lui, mais il était trop léger pour recevoir la vérité, pourtant il me remit en liberté, et je passai à la réunion. Puisqu'aucun des habitants de la ville ne vint à la réunion, nous déclarâmes la vérité à travers la ville, puis nous partîmes, visitant les réunions des amis dans la région, et retournâmes vers Batka. Plusieurs amis déclarèrent la vérité dans leurs églises à clocher, et la puissance du Seigneur était avec eux. Une fois, comme j'allais avec William Osborne vers sa maison, on trouva sur le bord de la route une bande de gaillards grossiers qui s'étaient cachés sous les haies et dans les buissons. Les voyant, je demandai à William, « Qui sont ces gens ?»« Oh, dit-il, ce sont des voleurs. » Ayant été poussé à aller parler à un prêtre, Robert Withers était resté en arrière, voulant nous rejoindre ensuite, je dis donc à William Osborne, « Je vais rester ici dans cette vallée, et toi, va trouver Robert Withers. » Mais il ne voulait pas y aller, car il avait peur de me laisser seul là avec ses hommes, jusqu'à ce que je lui dise que je ne les craignais pas. Alors je les appelai, leur demandant pourquoi ils se cachaient là. Je leur ordonnai de sortir et de venir vers moi, mais ils hésitaient à venir. Je les avertis de sortir, sinon cela pourrait être pire pour eux. Alors ils vinrent vers moi en tremblant, car la crainte du Seigneur les avait saisis. Je les exhortai à être honnêtes et les dirigeai vers la lumière de Christ dans leur cœur, afin que par elle ils voient combien il était mauvais de commettre vols et brigandages, et la puissance du Seigneur vint sur eux. Je restai là jusqu'au retour de William Osborne et de Robert Withers, puis nous poursuivîmes ensemble. Si nous étions repartis tous les deux lorsque nous avons d'abord découvert ces voleurs, et si Robert Withers était revenu seul pour nous rejoindre, il aurait probablement été dépouillé, car il y avait trois ou quatre voleurs. Nous allâmes chez William Osborne, où nous eûmes une bonne occasion de déclarer la vérité à plusieurs personnes qui vinrent. Puis nous allâmes parmi les Highlanders, qui étaient si diaboliques qu'ils faillirent nous blesser gravement, nous et nos chevaux, en se ruant sur nous avec des fourches, mais par la bonté du Seigneur, nous leur échappâmes, étant préservés par sa puissance. De là nous passâmes à Stirling, où les soldats nous arrêtèrent et nous conduisirent au corps de garde principal. Après quelques mots avec leurs officiers, et la puissance du Seigneur venant sur eux, nous fûmes remis en liberté, mais la ville était si fermée dans les ténèbres que nous ne pûmes obtenir une réunion parmi eux dans la ville. Le lendemain matin, un homme arriva avec un cheval pour faire une course, et la plupart des gens de la ville et les officiers allèrent la voir. Comme il revenait de la course, j'eus une magnifique occasion de déclarer parmi eux le jour du Seigneur et sa parole de vie. Certains la voirent et certains s'y opposèrent, mais la vérité et la puissance du Seigneur vinrent sur eux tous. En quittant Stirling, nous arrivâmes à Bunt Island, où j'eus deux réunions chez le capitaine Poole, l'une le matin, l'autre l'après-midi. Pendant qu'ils allaient dîner, je marchais jusqu'au bord de mer, n'ayant pas la liberté de manger avec eux. Lui et sa femme furent tous deux convaincus, et devinrent ensuite de bons amis, et plusieurs officiers de l'armée vinrent à la réunion et reçurent la vérité. De là, nous traversâmes plusieurs autres endroits de ce pays, jusqu'à ce que nous arrivions à Johnston's, où il y avait plusieurs baptistes, très amés, qui vinrent, enragés, disputer avec nous. C'étaient en vérité de vains discoureurs et des disputeurs. Ne pouvant l'emporter par la dispute, ils allèrent informer le gouverneur contre nous, et le lendemain matin ils levèrent toute une compagnie d'infanterie et me bannirent, moi, Alexander Pock, James Lancaster et Robert Withers, hors de la ville. Comme ils nous escortaient à travers la ville, James Lancaster fut poussé à chanter d'un son mélodieux dans la puissance de Dieu, et je fus poussé à proclamer le jour du Seigneur et à prêcher l'Évangile éternel au peuple. Car le peuple sortit généralement, de sorte que les rues en étaient remplies, et les soldats furent si honteux qu'ils dirent qu'ils auraient préféré aller en Jamaïque plutôt que de nous avoir ainsi gardés. Mais on nous mit dans une barque avec nos chevaux, on nous fit passer l'eau, et l'on nous y laissa. Les baptistes, qui furent cause de notre expulsion de cette ville, furent eux-mêmes, peu après, renvoyés de l'armée, et celui qui était alors gouverneur fut également écarté quand le roi entra. Ainsi chassés de Johnston's, nous allâmes dans une autre ville de marché, où Edward Billing et beaucoup de soldats étaient cantonnés. Nous allâmes à une auberge et demandâmes à tenir une réunion dans la ville, afin de prêcher parmi eux l'Évangile éternel. Les officiers et les soldats dirent que nous tiendrions la réunion dans l'hôtel de ville, mais les magistrats écossais, par dépit, fixèrent ce jour-là une réunion là pour les affaires de la ville. Quand l'officier des soldats comprit et vit que cette réunion était fixée par malice, ils voulurent que nous allions quand même dans l'hôtel de ville. Mais nous leur dîmes, non, nullement, car alors les magistrats pourraient informer le gouverneur contre eux et dire qu'ils leur avaient pris l'hôtel de ville par force alors qu'ils devaient y traiter leurs affaires municipales. Nous leur dîmes, nous irons sur la place du marché. Ils dirent, c'est jour de marché? Nous répondîmes, tant mieux, car nous voulons que tous entendent la vérité et connaissent nos principes. Alors Alexander Pock alla se tenir sur la croix du marché, une Bible à la main, et déclara la vérité parmi les soldats et les gens du marché. Mais les Écossais, étant un peuple sombre et charnel, y prêtèrent peu d'attention et remarquent à peine ce qui était dit. Peu après, je fus poussé par le Seigneur Dieu à me tenir à la croix et à déclarer d'une voix forte la vérité éternelle, et que le jour du Seigneur venait sur tout péché et toute méchanceté. Alors les gens sortirent en courant de l'hôtel de ville en si grand nombre qu'à la fin nous eûmes une grande réunion, car ils ne siégeaient au tribunal que pour nous empêcher de nous réunir dans l'hôtel de ville. Quand le peuple sortit de l'hôtel de ville, les magistrats les suivirent. Certains passèrent, mais d'autres restèrent et écoutèrent, et la puissance du Seigneur vint sur tous et garda tout le monde en calme. Les gens furent tournés vers le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour eux et les avait éclairés, afin qu'avec sa lumière ils puissent voir leurs mauvaises œuvres, être sauvés de leurs péchés par lui et venir à le connaître comme leur enseignant. Mais s'ils ne voulaient pas recevoir Christ et le reconnaître, on leur dit que cette lumière qui venait de lui serait leur condamnation. Plusieurs d'entre eux nous furent très affectueux, surtout les Anglais, et quelques-uns vinrent ensuite à être convaincus. Mais il y avait un soldat qui était très envieux contre nous. Il haïssait à la fois nous et la vérité, disait du mal de la vérité et parlait très outrageusement contre la lumière de Christ Jésus, dont nous rendions témoignage. C'était un partisan zélé des prêtres et de leurs auditeurs. Comme cet homme tenait son chapeau devant son visage pendant que le prêtre priait, l'un des auditeurs du prêtre le poignarda à mort. Ainsi celui qui avait rejeté les enseignements du Seigneur Jésus-Christ et dénigré les serviteurs du Seigneur fut assassiné parmi ceux qu'il exaltait tant et par l'un d'eux. Nous voyageâmes de cette ville à Lys, avertissant et exhortant les gens en chemin à se tourner vers le Seigneur. À Lys, l'aubergiste me dit que le conseil avait accordé des mandats pour m'appréhender, parce que je n'avais pas quitté la nation après l'expiration des 7 jours durant lesquels il m'avait ordonné de la quitter. Plusieurs personnes amicales vinrent aussi me dire la même chose. Je leur dis, « Pourquoi me parlez-vous de leur mandat contre moi? Quand il y en aurait une charté, je ne m'en soucierais pas, car la puissance du Seigneur est au-dessus de tous. » Je retournai encore de Lys à Édimbourg, où l'on disait que les mandats du conseil étaient lancés contre moi. J'allai à l'auberge où j'avais logé auparavant, et personne ne se mêla de moi. Après avoir visité les amis dans la ville le matin, je dis à ceux qui voyageaient avec moi de préparer leurs chevaux, et nous sortîmes de la ville ensemble. Avec moi étaient Thomas Rawlinson, Alexander Pock et Robert Withers. Quand nous fûmes sortis de la ville, ils me demandèrent où j'allais. Je leur dis, il m'est imposé par le Seigneur de retourner à Johnston, la ville d'où nous avions été récemment expulsés, et d'y établir aussi sur eux la puissance de Dieu et sa vérité. Alexander Pock dit qu'il viendrait avec moi, et je souhaitais que les deux autres restent dans une ville à environ 3 000 d'Édimbourg jusqu'à notre retour. Alors Alexander Pock et moi traversâmes la rivière, qui était à environ 3 000, et chevauchâmes à travers la campagne, mais l'après-midi, son cheval était faible et ne pouvait suivre le mien. Je continuai donc et entrai à Johnston au moment même où il relevait les ponts. Les officiers et les soldats ne me questionnèrent pas, et je remontai la rue à cheval jusqu'à chez le capitaine d'avant-port, d'où nous avions été bannis. Il y avait avec lui beaucoup d'officiers, et quand j'arrivai parmi eux, ils levèrent les mains, étonnés que je revienne, mais je leur dis que le Seigneur Dieu m'avait envoyé parmi eux de nouveau. Alors ils vaquèrent à leurs affaires, et les baptistes m'envoyèrent une lettre de défi, disant qu'ils débattraient avec moi le lendemain. Je leur fis répondre que je les rencontrerais dans une maison désignée, à environ un demi-mille de la ville, à une heure fixée. Car je considérais que si je restais en ville pour débattre avec eux, ils pourraient, sous prétexte de débattre avec moi, lever des hommes pour me chasser encore de la ville, comme ils l'avaient fait auparavant. À l'heure dite j'allai au lieu, accompagné du capitaine d'avant-port et de son fils, j'y restai et attendis plusieurs heures, mais aucun d'eux ne vint. Tandis que je restais à les attendre, je vis venir Alexander Pock. La veille au soir, il n'avait pas pu atteindre la ville et avait logé hors de la ville. Je fus extrêmement heureux que nous nous soyons retrouvés. Ce capitaine d'avant-port était alors bien disposé envers les amis, mais ensuite, à mesure qu'il entra dans une plus grande obéissance à la vérité, il perdit sa charge pour n'avoir pas ôté son chapeau et pour leur dire « The is ». Après avoir attendu au-delà d'un délai raisonnable, nous partîmes, et Alexander Pock fut poussé à retourner dans la ville où nous avions tenu la réunion à la Croix du Marché. Je passai seul au quartier du lieutenant Fausté, où je trouvai plusieurs officiers qui avaient été convaincus. De là je retournai à la ville où j'avais laissé les deux autres amis, et eux et moi retournâmes ensemble à Édimbourg. Quand nous fûmes arrivés à la ville, je dis à Robert Woods de me suivre, et dans la crainte et la puissance du Seigneur, nous parvîmes aux deux premières sentinelles. La puissance du Seigneur les terrassa tellement que nous passâmes sans aucun interrogatoire. Puis nous remontâmes la rue à cheval jusqu'à la place du marché, et dépassant le poste de garde principal, nous sortîmes par la porte auprès de la troisième sentinelle, et ainsi nous fûmes hors de danger jusque dans les faubourgs. Là nous arrivâmes à une auberge et y logeâmes nos chevaux, car c'était le septième jour. Or je vis et je sentis que nous avions chevauché, pour ainsi dire, contre la bouche des canons ou la pointe de l'épée, mais la puissance du Seigneur et sa main immédiate nous portèrent au-dessus de la tête de tous. Le lendemain j'allai à la réunion dans la ville, les amis ayant été avisés que j'y assisterais. Beaucoup d'officiers et de soldats y vinrent, et ce fut une réunion glorieuse. La puissance éternelle de Dieu fut établie au-dessus de la nation, et son Fils régna dans sa puissance glorieuse. Tout fut paisible, et nul ne chercha à s'opposer à moi. Quand la réunion fut terminée, et après avoir rendu visite aux amis, je sortis de la ville pour retourner à mon auberge. Le lendemain, étant le deuxième jour, nous partîmes en direction des frontières de l'Angleterre. En voyageant à travers la campagne, je vis une église et cela me frappa au vif. Je demandai quelle était cette église, on me répondit que c'était d'un bar. Quand j'y fus arrivé et que j'eus logé dans une auberge, je marchai jusqu'à l'église, ayant un ou deux amis avec moi. Lorsque nous arrivâmes dans le cimetière, l'un des principaux hommes de la ville s'y promenait. Je demandai à l'un des amis qui était avec moi d'aller vers lui et de lui dire qu'à 9 h le lendemain matin, il y aurait là une réunion du peuple de Dieu appelée Quakers, et que nous désirions qu'il en informât les habitants de la ville. Il me fit répondre qu'il devait avoir un sermon à 9 h, mais que nous pouvions tenir notre réunion à 8 h du matin si nous le souhaitions. Nous acceptâmes et lui demandâmes d'en donner avis. En conséquence, le matin, riches et pauvres vinrent, et comme un capitaine de cavalerie était cantonné dans la ville, lui et ses cavaliers vinrent aussi, de sorte que nous eûmes une grande assemblée, et ce fut une réunion glorieuse, la puissance du Seigneur étant établie au-dessus de tous. Après quelque temps, le prêtre arriva et entra dans l'église, mais comme nous étions dans le cimetière, la plupart des gens restèrent avec nous. Les amis étaient si remplis, et leur voix si forte dans la puissance de Dieu, que le prêtre ne put faire grand-chose dans l'église. Il ressortit donc rapidement, se tint là un moment, puis s'en alla. J'exposai au peuple, où ils pouvaient trouver le Christ Jésus, je les tournai vers la lumière dont il les avait éclairés, et que, dans la lumière, ils pouvaient voir le Christ qui était mort pour eux, se tourner vers lui et le connaître comme leur sauveur et leur maître. Je leur fis voir que les enseignants qu'ils avaient suivis jusque-là étaient des mercenaires, qui rendaient l'Évangile onéreux. Je leur montrai les voies erronées dans lesquelles ils avaient marché, dans la nuit de l'apostasie, et je les dirigeai vers Christ, le chemin nouveau et vivant vers Dieu. Je leur expliquai comment ils avaient perdu la religion et le culte que Christ avait établi en esprit et en vérité, et comment depuis ce temps les gens avaient vécu dans des religions et des cultes inventés et établis par les hommes seulement. Et après avoir tourné le peuple vers l'Esprit de Dieu, qui avait conduit les saints hommes de Dieu à faire sortir les Écritures, je leur montrai qu'eux aussi devaient venir à recevoir et à être conduits par ce même Esprit en eux-mêmes, dont une mesure avait été donnée à chacun d'eux, s'ils voulaient jamais connaître correctement Dieu, le Christ et les Écritures. Voyant que les autres amis qui étaient avec moi étaient remplis de puissance et de la parole du Seigneur, je descendis, leur laissant déclarer au peuple ce qu'ils avaient reçu du Seigneur. Vers la fin de la réunion, quelques gens de profession commencèrent à disputer sur des points de doctrine. Alors je me levai de nouveau et répondis à leurs questions, de sorte qu'ils semblèrent satisfaits, et notre réunion s'acheva dans la puissance du Seigneur, calme et paisible. Ce fut la dernière réunion que j'eus en Écosse. La vérité et la puissance de Dieu furent établies sur cette nation, et beaucoup, par la puissance et l'Esprit de Dieu, furent tournés vers le Seigneur Jésus-Christ, leur Sauveur et leur Maître, dont le sang avait été versé pour eux, et ensuite il y eut une grande augmentation de leur nombre, et il y en aura un nombre encore plus grand en Écosse. Car lorsque je posai, pour la première fois, les pieds de mon cheval sur le sol écossais, je sentis la semence de Dieu étinceler autour de moi comme d'innombrables étincelles de feu. Ce n'était pas pour nier l'abondance de la terre épaisse, lourde et grumeleuse d'hypocrisie et de fausseté qui recouvrait le sol, ni une nature de ronces et de broussailles, qui doit être brûlée par la parole de Dieu et labourée par sa charrue spirituelle, avant que la semence de Dieu ne produise des fruits célestes et spirituels pour sa gloire. Mais le laboureur doit attendre avec patience. De Dunbar, nous arrivâmes à Berwick, où les officiers nous interrogèrent un peu, mais le gouverneur fut bienveillant envers nous, et le soir nous eûmes une petite réunion, dans laquelle la puissance du Seigneur se manifesta sur tous. En quittant Berwick, nous arrivâmes à Morpeth, puis à travers la campagne en visitant les amis à Newcastle, où j'étais déjà venu une fois auparavant. Les prêtres de Newcastle avaient écrit de nombreux livres contre nous, et l'un d'eux, nommé Ledger, échevin de la ville, était très envieux à l'égard de la vérité et des amis. Lui et les prêtres avaient dit, « Les Quakers n'entreront dans aucune grande ville, ils vivent dans les champs, comme des papillons. » J'emmenai Anthony Pearson avec moi et j'allai chez cet homme nommé Ledger, qui se trouvait avec plusieurs autres échevins. Je leur dis que nous étions arrivés dans leur grande ville et que, voyant qu'ils avaient écrit tant de livres contre nous, nous souhaitions avoir une réunion avec les habitants de la ville et avec eux, mais ils ne permirent pas de réunion, et ils ne voulurent pas non plus nous écouter, sauf Ledger et un autre échevin. Je demandai, n'ont-ils pas traité les amis de papillons, et dit que nous ne viendrions dans aucune grande ville, et maintenant que nous sommes dans leur ville, ils ne veulent pas nous rencontrer, bien qu'ils impriment des livres contre nous, qui sont les papillons à présent. Alors Ledger se mit à plaider pour le jour du sabbat. Je lui dis qu'il tenait marché et foire le véritable jour du sabbat, car le véritable jour du sabbat est le septième jour de la semaine, tandis que ce jour où les chrétiens de profession se réunissent maintenant, et qu'ils appellent leur sabbat, est le premier jour de la semaine. Puisque nous ne pouvions avoir de réunion publique parmi eux, nous eûmes une petite réunion parmi les amis et des gens bien disposés du côté de la porte, où une réunion se poursuit jusqu'à ce jour au nom de Jésus. Comme je passais près de la place du marché, la puissance du Seigneur s'éleva en moi pour les avertir du jour du Seigneur qui venait sur eux. Et peu après, tous ces prêtres de Newcastle et leur profession furent expulsés lorsque le roi revint, retour suivant.